Lyon demain, la radio sans pub.
L'accident de voiture de Pierre Palmade, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, a remis sur la table un sujet de santé publique, celui des drogues et notamment du chemsex, contraction des mots anglais chemical sex ou sexe sous drogue en français. Cette pratique est apparue dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine d'années et s'est répandue en Europe. Il s'agit d'utiliser des substances psychoactives diverses pour rendre l'acte sexuel plus fort et décupler les sensations, une pratique qui inquiète les professionnels de santé comme Yann Botrel, hypnothérapeute spécialisé en addictologie, adjoint au maire à la ville de Charlie et membre de l'association Élus locaux contre le sida. Il a envoyé une lettre au ministère de la Santé mercredi dernier pour alerter l'État sur les dangers de cette pratique à la fois créatrice de dépendance et déclencheuse de comportements sexuels à risque. Yann Botrel a expliqué sa démarche au micro de notre journaliste Madeleine Clunia.
Les dangers, ils sont nombreux. Il y a d'abord des dangers aigus parce qu'on va utiliser des produits. Alors, il n'y a pas de règles, on peut utiliser vraiment plein de choses. Souvent, on va retrouver certaines familles comme la cocaïne qu'on connaît bien, qui est un boostant. Il y a ce qu'on appelle le G, le GHB ou GBL, ce que les médias ont appelé la drogue du violeur, mais c'est quelque chose qui est légal, puisque quand on achète du GBL, c'est un solvant qui est utilisé dans l'industrie, pour nettoyer les parquets ou nettoyer les jantes de voiture, et donc on s'en procure très facilement. Ça a un pouvoir désinhibant, ça augmente les sensations sexuelles également, et puis on peut utiliser toute une famille qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse. C'est un fléau, ça, depuis quelques années, c'est des drogues artificielles qui sont fabriquées dans des laboratoires, bien souvent en Chine ou dans les Pays-Bas, qui sont censées imiter les effets d'autres drogues. Et il y a une grande famille là-dedans qu'on appelle les catinones. Les catinones, ça imite la feuille de cat, qui est une substance naturelle qu'on trouve au Moyen-Orient ou en Afrique de l'Est. C'est des amphétamines très puissants et ils ont tous des noms un peu barbares. On parle beaucoup de la 3MC en ce moment, qu'on appelle la nouvelle cocaïne, un peu à tort d'ailleurs. Et tous ces produits-là, on va faire des mélanges. Les pratiquants vont faire des mélanges et ça peut provoquer alors des accidents très aigus, des comas, hein, vraiment, parce que si on mélange le GHB, par exemple, à l'alcool, il peut y avoir vraiment des comas jusqu'au décès. Enfin, il peut y avoir des overdoses sur tous ces produits-là. Ensuite, il y a des risques de contamination aux infections sexuellement transmissibles, puisque malheureusement, bien souvent, les pratiquants oublient les précautions, oublient le préservatif, donc on a des contaminations. Ensuite, il y a un risque d'addiction qui est très fort. On voit des gens qui vont devenir dépendants très rapidement des catinones ou des autres substances et on rentre dans un engrenage des gens qui se marginalisent et qui vont ne penser plus qu'à ça, donc vraiment rentre dans cet enfer-là. Il y a des risques de perturbation de la sexualité aussi, parce que quand on consomme du sexe comme ça sous produit, après retrouver une sexualité normale, parfois c'est un petit peu compliqué. Quand un chemsexeur vous décrit son acte sexuel, vous avez l'impression d'être dans un truc qui est extraordinaire. Ils le vivent vraiment comme ça. Et c'est tout le danger, parce que du coup, on devient à la fois addict à ces produits, à la fois addict aussi au chemsex en lui-même, à ce comportement. Et puis aussi des vrais risques d'agression sexuelle, de viol, puisque quand on est sous substance, se pose quand même la question du consentement à certains moments. Et on voit des gens qui, à leur tour, peuvent être soit victimes, soit agresseurs, puisque on perd complètement le contrôle de soi-même.
Et la redescente, enfin le moment où on retourne à la réalité, du coup après un chemsex, c'est violent.
Oui, ça c'est un point clé, c'est que les descentes de chemsex sont souvent très très difficiles sur plusieurs jours, que ce soit la cocaïne ou les catinones. Et c'est à ce moment-là, on a des gens qui sont en dépression vraiment aiguë, très sévère, et c'est là aussi il y a des risques de suicide qui sont très importants. Puis c'est besoin de reconsommer derrière ou parfois de prendre d'autres produits pour atténuer la descente, donc on rentre dans un engrenage qui est catastrophique.
Et justement, le problème c'est que c'est assez facile de s'en procurer.
Oui, c'est tout le drame de cette histoire, parce que le chemsex, en fait, c'est potentialisé sur trois facteurs, c'est-à-dire à la fois il y a eu l'essor d'Internet, la facilité de se procurer justement ces produits sur Internet très facilement et à moindre frais, c'est très, très peu coûteux, et puis il y a eu l'essor aussi des sites de rencontres géolocalisés. Et tout ça a fait que ça a fait cette espèce de mélange qui fait que ça a favorisé les chemsex, et vraiment à moindre coût, et c'est tout le drame, parce qu'en plus il n'y a même plus besoin d'aller sur un point de deal, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant.
D'accord, et donc là, ce que vous voulez faire, c'est justement alerter les pouvoirs publics pour montrer qu'il y a vraiment ce souci, alors qu'on n'en parle pas énormément.
L'alerte est très importante parce que on a catégorisé le chemsex comme une pratique chez les homosexuels masculins, ce qui est le cas en majeure partie, c'est clair. Par contre, il ne faut pas sous-estimer la porosité du phénomène, et c'est là où les professionnels de santé alertent, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a notamment des étudiants qui ont pratiqué le chemsex, des filles, des hétérosexuels, parfois sans identifier forcément le terme chemsex, mais moi j'ai en consultation parfois des gens, au bout de 2-3 séances, qui vont me dire, des jeunes filles, en fait j'ai pratiqué avec de la cocaïne, avec il s'est passé ça, et après en développant on s'aperçoit qu'il y a ce genre de pratique, et c'est là où on alerte, parce qu'on sait qu'il y a potentiellement beaucoup de décès qui sont pas catégorisés comme des chemsex à tort, et il faut absolument qu'il y ait d'abord un point de départ, c'est-à-dire une grande enquête épidémiologique au point de vue national, et pas que sur les communautés homosexuelles.
Oui, parce que du coup ça touche vraiment tout le monde, surtout les jeunes.
Principalement la communauté homosexuelle, mais ça touche aussi le milieu étudiant. Il y a des études qui le montre. Il y a eu une étude l'année dernière quand même qui a été chapeautée par les Hospices de Lyon, qui ont interrogé de manière anonyme un millier de chemsexeurs, et on sait que dans ces 1000 chemsexeurs, il y avait 16% de femmes et 6% d'hétérosexuels. On peut pas nier le fait qu'il y a une porosité du phénomène et qu'il risque d'y avoir un effet de mode chez la population étudiante, notamment du fait du faible coût de ces produits.
Le but du fait que vous avez pris la parole et que vous continuez de le faire au quotidien, c'est pour sensibiliser les jeunes à ces dangers-là.
C'est important d'alerter aussi parce qu'on a tendance des fois à stigmatiser et on s'imagine que les chemsexeurs c'est lié à une certaine population. L'actualité récente avec l'accident de Pierre Palmade, j'ai peur que justement on imagine que c'est réservé à une certaine caste, à une certaine population, alors que pas du tout. Il faut que les parents sachent que lorsqu'on a des ados à la maison, c'est très facile de se faire embarquer sur ce genre de choses, et une fois suffit pour qu'il se passe un drame. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Tous les pratiquants de chemsex ne sont pas des gens qui sont délurés et complètement hors cadre. Il y a des gens de tout niveau socio-culturel. Et puis l'addiction en général, on n'est jamais à l'abri d'avoir un coup dur et de tomber un jour, de se réfugier dans des produits. Donc il y a vraiment un danger de santé publique sur le chemsex.
Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez que les pouvoirs publics fassent pour limiter ce nombre de chemsexeurs?
Moi, je crois beaucoup à la prévention. On a parfois tendance à vouloir être dans le tout répressif. Ça a ses limites, surtout pour les drogues de synthèse, parce que quand une substance est classée stupéfiante, le laboratoire va changer la molécule et puis hop, ça repart. La prévention est très importante, et commencer par le commencement, c'est-à-dire faire une grande étude épidémiologique pour savoir où on en est précisément sur toutes les populations, en milieu urbain, en milieu rural. Je pense qu'on va tomber de nos chaises quand on va vraiment avoir une étude épidémiologique fiable. Et puis de là, il faut faire des actions, et ça passe par la prévention, évidemment, beaucoup plus large que dans les milieux homosexuels, aussi dans les milieux étudiants. Il faut mettre des moyens dans l'addiction en général, et puis aussi former les magistrats et les policiers. C'était prévu pendant le Covid, justement, bon, ça avait été un peu ajourné, mais c'est important que les policiers puissent identifier lorsqu'il y a des décès qui sont liés au chemsex, parce qu'il y a beaucoup de tabous encore là-dessus.
Pour les chemsexeurs, justement, l'arrêt de tout ça, et ça se passe comme pour n'importe quelle autre addiction?
Oui, c'est une question qui est importante, parce que on voit des fois des professionnels de santé qui sont un peu effrayés parce qu'il y a une multitude de produits, alors qu'en fait finalement le traitement est le même. C'est-à-dire aujourd'hui vous avez utilisé une béquille qui vous fait plus de mal que de bien, celle-là on l'arrête et maintenant on va réapprendre à faire autre chose. C'est là tout l'enjeu et de toute la désaddiction, c'est-à-dire que à partir du moment où on règle ces problèmes de fond qui sont la difficulté à gérer les émotions ou autre chose, eh bien on rechute pas, et le parcours d'un addict il est jamais très rectiligne. La rechute fait souvent partie aussi de la maladie. Donc nous on accompagne, et l'addictologue c'est surtout faire germer la motivation, et puis parfois le déni aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni très longtemps, mais faire émerger cette envie d'arrêter.
Yann Botrel, hypnothérapeute spécialisé en addictologie, au micro de Madeleine Clunia.